C'est ce que j'ai toujours entendu dire un petit peu par les personnes, puisque moi, bien sûr, je n'étais pas né à l'époque, mais par les personnes qui étaient là, la population avait été questionnée justement pour la reconstruction du village au lendemain de la guerre, savoir si le village le reconstruisait en lieu même et en place même où c'est qu'il est aujourd'hui, ou alors faire un petit peu comme ça a été fait à Oradour-sur-Glane, laisser les ruines du village plus ou moins, et puis reconstruire le village 500-600 mètres à côté.
Jean-Michel Rey, ancien conseiller municipal de Vassieu-en-Vercors.
À l'époque, les gens sur Vassieu avaient voulu tourner une page un petit peu et avaient décidé de faire reconstruire le village.
Les 20 ans du mémorial de la résistance en Vercors, un document audio réalisé autour des 20 ans du mémorial et dans le cadre du programme Au pays de la liberté, 70 ans plus tard. D'après une idée originale du parc naturel régional du Vercors, réalisation Radio Royan.
Si on revient à la libération, dès 44-45, il y a déjà l'idée de créer des monuments sur le Vercors. Donc vont être créés après-guerre, notamment avec les pionniers du Vercors, la nécropole qui se trouve à Saint-Nizier, par exemple. Et puis dans la foulée, d'autres lieux comme la nécropole de Vassieu. Et par ailleurs, des stèles qui vont à un moment donné mailler le territoire.
Gérard Estève, actuel directeur du mémorial.
La notion qui avait quand même été évoquée d'un mémorial d'une grande ampleur sur le Vercors ne revient sur la table que dans les années 70, la création d'un grand monument sur le Vercors, visible de tout le Vercors. Passent plusieurs années et au milieu des années 80, lors d'un congrès, les pionniers du Vercors relancent de nouveau l'idée d'un monument. Entre-temps, il y avait un musée qui s'est créé avec Joseph Lapicirella à Vassieu. De l'autre côté, les pionniers du Vercors avaient créé autour de la nécropole la salle du souvenir. Mais l'idée d'un monument, l'idée d'un mémorial, ressurgit à l'occasion de ce congrès où ils saisissent le parc naturel régional du Vercors en 87.
Ce dossier, on y a travaillé, le parc du Vercors, il y a travaillé 3 ou 4 ans sur... D'abord, sur le principe.
Albert Villard, président du parc naturel régional du Vercors, en charge de la réalisation jusqu'en 1993.
Et il y a longtemps qu'on parlait dans le Vercors de faire un grand musée de la résistance, étant donné le passé du Vercors. Mais bon, personne ne s'entendait trop. Il y avait d'une part du côté des acteurs, les anciens des pionniers du Vercors, il y avait l'association officielle, l'association des pionniers du Vercors, et puis il y avait une autre association menée par Lapicerella de Vassieu. Donc ils ne s'entendaient pas du tout, il fallait d'abord les mettre d'accord. Et puis ce dossier se dérange sur le site du Vercors, qui est la structure du parc. C'est pour ça d'ailleurs que finalement on a demandé au parc, parce que c'était le seul organisme qui pouvait réunir tout le monde.
À l'origine, les pionniers souhaitaient créer une fondation. Bon, mais une fondation, c'est beaucoup d'argent au départ, et ça n'a pas pu voir le jour. Alors ensuite est née l'idée du site national historique, mais il faut laisser les historiens retrouver les racines très précises. Les pionniers ont été incontestablement partie prenante au départ. Moi, j'ai le souvenir de Georges Ferrer revenant de réunion du comité de pilotage de ce projet.
Daniel Huillier et Philippe Huette, Association nationale des pionniers du Vercors.
Je savais qu'il y avait un peu des tiraillements entre les pionniers et on ne voyait pas les choses, paraît-il. Bon,
Alors, c'est vrai que les pionniers souhaitaient une suite, mais c'était d'abord une initiative de l'État qui a mis beaucoup d'argent pour construire le mémorial et des collectivités, en particulier du parc naturel régional, enfin, ou de la région qui le gère actuellement.
Il y avait deux départements, la Drôme et l'Isère, la région Rhône-Alpes, et puis l'État, et notamment un financement avec 50% de participation de l'État. Le président de la République d'alors, François Mitterrand, était très partant. Donc je pense que c'est grâce à son appui que ça a été obtenu. Et le reste, et les 50%, ont été répartis entre la région et les deux départements.
Il faut plusieurs années. C'est donc un long processus, hein. Les collectivités territoriales finissent par adhérer au projet. L'État, ça s'inscrit dans les grands chantiers de l'époque, et notamment les grands chantiers de François Mitterrand. Et donc la décision, à un moment donné, est bien prise de créer le site national de la résistance en Vercors, le site national historique de la résistance en Vercors, ce qu'on a appelé le SNHRV.
Qui était un projet un peu global, multisite.
Philippe Auger, ancien chargé de mission, puis directeur du parc naturel régional du Vercors.
Qui rayonnait sur l'ensemble du massif du Vercors, avec un équipement phare qu'on va évoquer, c'était le mémorial de Vassieux. Et puis quelques équipements relais, Villard de Lans par exemple sur Valchevrière, sur l'ensemble des sites de mémoire que vous redécouvrez en vous promenant dans le Vercors, avec un souci de redonner des jalons pour mieux faire mémoire à l'époque, c'était les 50 ans des événements, de cet épisode de juillet 44.
En fait, il s'agissait... outre le mémorial, de réhabiliter un petit peu tous les lieux de mémoire qui se trouvent sur le territoire du Vercors.
Hervé Nico, premier directeur du mémorial.
Entre autres, la cour des fusillés, la grotte de la Luire, la nécropole de Vassieux, la nécropole de Saint-Nizier, et puis le village de Valchevrière, qui était un village qui avait été brûlé par les Allemands, et dont on a consolidé les ruines et fait des chemins de traverse pour pouvoir visiter ce village. Donc c'est un ensemble, si vous voulez, le site national historique de la résistance, et dont le mémorial est la pierre d'achoppement, en quelque sorte.
On a essayé de pousser, finalement, l'État, demandant de faire quelque chose, on a essayé de pousser l'État à aller plus loin.
François Brasbic, ancien chargé de mission pour le parc naturel régional du Vercors.
Il y avait une possibilité, ça n'a pas été trop difficile, qui était de mettre dans le coup ce qu'on appelle l'Institut d'Histoire du temps présent, qui est... un outil du CNRS, on va dire, mais qui est complètement officiel, justement, sur la mémoire, et en particulier sur tout le problème de l'ouverture des archives, qui arrivait aussi, justement, 50 ans après. Donc la caution scientifique, voilà. Donc, on est cette équipe scientifique qui a travaillé, qui a fait le mémorial de Caen, d'ailleurs, etc. Donc c'était François Bédarida, le directeur, donc on a été avec le rencontrer, avec Philippe Auger, qui à ce moment-là était directeur du parc.
Donc ça fut une époque intéressante, qui ne fut pas sans difficulté, à la fois sur la mise en œuvre, à la fois administrative, financière, évidemment, mais qui était en même temps passionnante, puisque c'était une expérience un peu nouvelle, qui marquait le passage d'une période durant laquelle la mémoire du Vercors était grandement assurée encore par les associations d'anciens combattants. Faire le lien entre cette génération-là, qui sentait qu'il fallait passer la main, évidemment, en particulier l'association des pionniers, et puis le souci avec les équipes du parc et l'appui de l'État et des mairies concernées, de laisser des traces vivantes, bien informées, apportant aux visiteurs des éléments d'information historique, de remise en perspective de ces événements, de manière plus audible pour un public des années 90. Et en particulier pour les plus jeunes générations.
Les nécropoles, Pas de l'Aiguille, la grotte de la Luire, la cour des fusillés, Malval. Donc on revient aussi à cette notion, et le Vercors est en soi un monument de Dalloz. Et avec une pierre centrale, enfin un édifice central qui serait le mémorial de la résistance. Où l'implanter ?
Je me souviens du débat sur la localisation de ce mémorial, puisque il y a eu quand même longtemps un débat entre, par exemple, la commune de Vassieux. C'était M. Roux qui était le maire, qui était très longtemps maire de Vassieux, hein, qui était instituteur également, qui posait la question de l'implantation la plus adaptée.
Alors il y avait trois options. La première option, c'était l'option du conseil général de l'époque qui aurait voulu que le musée privé qui est dans le village de M. Lapissarella fasse partie de ce site historique de la résistance, donc qu'on crée le mémorial dans le village. Donc ça, c'était le vœu du conseil général.
Pascal Hoffler, maire actuel de Vassieux-en-Vercors.
Le vœu du maire de l'époque de Vassieux, c'était Monsieur Jacques Roux, et lui, il voyait plutôt une idée plutôt en dessus le village, quoi, pour avoir une vie panoramique. Et la vue aussi des pionniers du Vercors, c'était là où il est implanté aujourd'hui, à proximité d'un ancien camp de résistants.
Donc ce dossier-là, ça a été assez pour faire le choix du site entre le village de Vassieux et le col de la Chaux. Ça a été assez épique.
Le choix du site de la Chaux, eh bien, le choix du site de la Chaux, le maire de Vassieux disait non, il nous avait plusieurs fois emmené dans la plaine de Vassieux chercher une petite bosse en disant mais là, ça pourrait faire.
À Vassieux, un ancien maquisard, Joseph Lapicirella, a voulu consacrer sa vie à la mémoire du maquis. Il a ouvert le seul musée de la Résistance dans le Vercors, musée privé qui fait désormais partie du patrimoine de la région.
Surtout, ce que je pense qui sera le plus difficile à choisir, c'est le lieu d'implantation.
C'est-à-dire qu'il est peu probable que ce lieu soit Vassieux. Vous allez devoir déménager en quelque sorte.
Là, disons que c'est à discuter. On ne peut pas prévoir maintenant. Personnellement, je pense qu'il vaudrait mieux, pour une question de pérennité, que le musée de la Résistance ou le site national historique, si vous voulez, soit dans le secteur nord.
Certains Vassieux préférant l'implantation dans la plaine de Vassieux, pensant que ça drainerait une meilleure animation pour l'ensemble du village. Et puis il y avait le parti pris plus porté, je pense, par le parc, disant qu'il fallait aussi, mettant en valeur les événements historiques, mettre en valeur aussi le site naturel qui a abriter ces événements, et en particulier à partir d'un point de vue qui est assez exceptionnel, qui était le col de la Chaux au-dessus de Vassieux, qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur la plaine de Vassieux, puis plus largement sur toute la partie sud du Vercors et sur les hauts plateaux.
Finalement, c'est au cours d'un dernier bureau du parc du Vercors, qui a eu lieu à Chorange, je me rappelle très bien, où avec le directeur, après avoir exposé tout le projet, nous avons dit clairement où nous le projet que nous avons. Il va bien au col de la Chaux, il faut le faire là. Si vous ne le voulez pas là, on se décharge du projet. Et là, il y a eu un vote à but inscrit, à l'unanimité, sauf deux abstentions favorables à la Chaux. Donc le débat était tranché là.
Et là, on va passer dans une deuxième phase, qui est celle, quel type de monument, ou quel type d'édifice pour ce mémorial ? Là, c'est ce qu'on appelle le concours d'architecture. Sur ce concours d'architecture, il est intéressant de voir qu'il y a deux types de projets qui sont mis en relief.
Il y avait toujours cet esprit où il fallait qu'à la fin de la visite, on ait une vue sur l'ensemble du Vercors. Donc, il y avait le projet du bas, qui était soutenu un petit peu par les gens du coin, était avec cette fameuse tour qui sortait, qui émergeait en centre du sol. Contrairement au mémorial, où le bâtiment est plus ou moins enterré dans le mémorial actuel, hein, qu'on connaît, est plus ou moins enterré dans le coteau de la montagne.
Des projets, mais on va en prendre plutôt que deux. Un projet qui est un projet de monument, dans le sens monument, mémorial, monument, et un projet qui est anti-monumentaliste.
Oui, effectivement, ça nous a apparu assez évident qu'il ne fallait pas faire un bâtiment trop ostentatoire, au contraire, un bâtiment assez humble, de façon à laisser les espaces intérieurs exprimer ce que devait exprimer ce mémorial.
Olivier Félix Faure, architecte.
Et surtout pas en faire un monument, mais un lieu, pas de recueillement, mais un lieu où on comprend un peu ce qui s'est passé, un lieu de souvenir, on comprend les choses et on s'en souvient bien.
C'est celui-là qui sera retenu, c'est celui de groupe 6.
Ça, je m'en souviens très très bien de l'oral, parce qu'il était particulièrement impressionnant et il a eu lieu dans la très grande salle du Conseil Général de la Drôme à Valence. Et quand on est arrivé là, il y avait une grande table avec peut-être une quarantaine de personnes pour parler de ce bâtiment. C'était vraiment impressionnant. On a essayé de faire passer toute l'émotion qu'on a mis dans ce projet. Je me souviens que quand on travaillait sur le projet, tous les soirs, pour me mettre dans l'atmosphère, je passais sur mon appareil de musique la chanson d'Eléo Ferret. C'est le fameux poème Aragon, donc le titre me revient, c'est l'affiche rouge qui évoque les 10 résistants qui sont morts fusillés en criant « Vive la France » et en disant adieu à leurs femmes et à leurs bien-aimés. C'est un très beau poème.
Il y a l'idée de se planquer. Je crois que c'est bâti. Après, c'est réussi, pas réussi, ça, chacun... Mais quand même, il me semble que les architectes le diraient. L'idée, au contraire, c'était... ça aurait presque pu... C'est à moitié souterrain, finalement, ce lieu. Hein. Et il faut vraiment être dessus pour le voir, maintenant. Donc, c'était... Oui, c'était bien l'idée de se cacher, d'être imbriqué comme ça dans la nature. Ça pourrait être des grottes, ça pourrait être des bois, ça pourrait être... Voilà.
Le projet, il est vraiment dessiné par les courbes de niveau, côté nord. Chaque courbe de niveau a déterminé une strate du bâtiment, ce qui permet d'avoir un bâtiment qui est très, très caché et pratiquement demi-enterré sur le site. Donc une très grande discrétion. L'idée étant qu'on voulait exprimer la résistance, donc plutôt quelque chose de caché, quelque chose qui se dissimule, qui observe. C'est pour ça qu'on s'est mis à l'UBAC, aller très légèrement sur le côté et regardant dans toute sa dimension l'ampleur du site.
C'est un bâtiment qui parle de la résistance, donc il fallait peut-être être humble au niveau construction. Pour que le symbole s'en étage d'autant plus.
Archives 1994.
Ce sont des lignes qui s'intègrent le mieux possible dans le paysage, de façon à ce que ce soit un bâtiment qui donne l'impression d'avoir toujours été là, au même titre que les abris dans le Vercors. Donc ça renvoie à l'image du maquisard, du veilleur, du guetteur dans le maquis du Vercors.
La volonté du programme avec ces cinq grands espaces. Donc il fallait déterminer des espaces très fluides, un parcours naturel, des grandes salles de formes différentes sans poteaux intermédiaires. Donc d'où cette idée de murs et de poutres qui suivent les courbes de niveau. Et si on avait la coupe devant les yeux, on comprendrait que ces différentes poutres qui enjambent les espaces sont aussi des lanterneaux qui devaient en principe capter la lumière naturelle. Et là, il y a eu un peu un débat architectural entre une muséographie très naturelle, sans projecteur, sans accastillage technique, et une muséographie plus sophistiquée avec des projecteurs, des appareils de télévision, etc., qui a finalement a pris le pas sur notre volonté d'avoir une architecture plus humble, plus dépouillée, exprimant peut-être plus naturellement ce que pouvait être la résistance.
Et je me rappelle avoir dit à Bernard Félix Faure, son frère aîné, que
Jean-François Trèves, architecte paysagiste.
Ici, il fallait refaire un peu comme à Grenoble la Bastille, encastrée dans la montagne, quoi. Oui, alors ça, de s'appuyer un petit peu dans la montagne et que ce vallon qui était magnifique, il fallait surtout pas le couper, quoi. Que c'était l'écoulement, c'était quelque chose de naturel, à bouleverser le moins possible la nature pour qu'elle reprenne ses droits, ce qui est. Elle a bien repris ses droits à l'heure actuelle. L'idée aussi, c'était que ces grands murs-là, son idée de départ, c'était de retrouver la montagne. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de mur derrière, on aurait eu la roche. Ce qui aurait été encore beaucoup plus rustique.
Les concepteurs avaient dit, de toute façon, on a arrêté notre choix. On ne veut plus entendre parler de statuaire à l'ancienne avec des rondes bosses, avec des bas-reliefs. Hein. On va s'appuyer sur quelque chose de tout à fait nouveau, hein, qui est une pensée philosophique qu'ils appellent la symbolique. Voilà, qu'on peut résumer en
Albert Orcel, ancien maire de Villard-de-Lans, est chargé du suivi aux côtés du préfet de la Drôme.
L'opposition de deux thèmes, hein, bon, qui se combattent, qui peuvent se mettre d'accord ou pas d'accord, hein, et cette symbolique pour le mémorial, c'était d'une part l'ombre, l'occupation, le maquis, les grottes où on se cachait, la forêt où on se cachait. Donc c'était des années de malheur, des années sombres. Hein. Et puis, quand tout s'arrange, après, c'est la victoire. Et à ce moment-là, on a traversé l'ensemble et on arrive sur cette fameuse terrasse que vous connaissez certainement, où on a une vue sur le massif qui est quelque chose d'époustouflant, hein, et qui est le triomphe de la lumière. Hein. Donc l'opposition, on comprenait très bien l'opposition entre l'ombre et la lumière.
cahier des charges, il était très précis. On avait à mettre en place une séquence de 5 espaces qui exprimaient la résistance, le site de Vassieux, la vie sur le plateau du Vercors, la destruction du village de Vassieux, et puis une ouverture sur le paysage du plateau du Vercors. Et puis le retour, donc il y avait un parcours à imaginer et à mettre en place sur ce site très particulier, puisqu'on était à un col. Il y avait le GR qui passait au col et un parcours à organiser depuis un parking qui devait être évidemment assez à l'écart. Au dernier moment, on a pensé que le bâtiment il était presque trop discret et comment le donner un peu... une image que les gens se soutiendront, l'image qu'on retrouvera par exemple sur la carte postale du musée. Et ça nous a semblé intéressant de faire sortir sur le site des grandes silhouettes qui représentaient les résistants. Et on les a fait bouger, elles sont posées sur un axe suffisamment souple de façon à ce qu'elles puissent tourner en grinçant un petit peu au fil du vent.
Un anti-monument à mon sens, d'une part parce que il s'intègre au paysage le mieux possible.
Sybille Levotte, étudiante.
Quand on arrive au mémorial, il y a une descente vers le mémorial qui montre bien que l'édifice est intégré au plus près des courbes de la pente et que dans ce sens-là, l'aspect monumental est moins visible. Alors, il est vrai que peut-être depuis le pied de la montagne, depuis le village de Vassieux, on a un aspect un petit peu différent où on voit en surplomb une petite partie de l'édifice qui intrigue les visiteurs. Voilà.
Il y avait un débat sur le contenu de la mégéographie qui nécessitait d'harmoniser les points de vue entre les associations mémorielles, en particulier les pionniers. Il y avait un musée privé qui était géré par Monsieur Lapicirella, qui était dans le village qui est toujours d'ailleurs dans le village de Vassieux, qui était un musée de mémoire représentant des pièces, des documents écrits, tout type de matériaux. Et puis le projet muséographique qui avait pu être porté par Jean-Pierre Laurent, qui était un peu responsable du projet muséographique, qui était un héritier des courants muséographiques importants qui ont donné naissance, aux écomusées, à de grands mouvements muséographiques des années 70-80 en France, et qui visaient à donner une lecture plus compréhensible pour de nouvelles générations, avec un mélange d'approches historiques, d'informations historiques objectives, et de présentations muséographiques qui permettaient aux visiteurs de se remettre dans l'ambiance, d'être plus en empathie avec ce qu'ont vécu à la fois les habitants du Vercors et les engagés combattants dans la résistance.
On nous demande souvent la différence entre un musée et un mémorial.
Hélène Bariel, actuelle régisseuse du mémorial.
En 1994, quand le mémorial a été inauguré, en fait, on n'avait pas encore l'habitude de visiter des mémoriaux avec une muséographie moderne. C'est un peu les nouvelles générations de musées. Et du coup, ici, au mémorial, c'est essentiellement des témoignages et des documentaires. Donc, la visite est basée sur la mémoire et sur la transmission de la mémoire via des documentaires audio, sonores et visuels. Et c'est ce qui différencie d'un classique musée d'objets où on a une collection d'objets qui est conservée, mise en valeur et qu'on n'a pas ici. Donc voilà ce qui différencie essentiellement le mémorial du musée, par exemple, qui est à Vassieux.
Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a.
Certains anciens combattants étaient perturbés, pas tous. C'est vrai que les anciens combattants ont pu être surpris quand même parce que ils avaient un peu une impression de vide à l'intérieur du mémorial. Et puis la démarche aussi du mémorial, c'était de laisser les gens s'imprégner, de visiter librement par eux-mêmes. Et du coup, ça faisait une grosse différence avec la visite du musée classique où on avait une personne qui nous accueillait, qui expliquait les objets, ce qu'on découvrait, alors qu'ici la démarche était plutôt solitaire. Donc il fallait s'imprégner d'un lieu où il y avait peu d'objets, où il y avait surtout des choses à ressentir et des témoignages. Donc c'était vraiment une nouvelle façon de découvrir l'histoire, et ça demandait un effort particulier et surtout une habitude quoi, de cette nouvelle façon de visiter des musées. Alors, aujourd'hui c'est intégré, mais à cette époque-là...
Mais ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé avec des membres de ma belle famille que j'avais emmenés à Vassieux, ou que ma femme avait emmené à Vassieux, et qui sont revenus outrés en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On nous fait payer une entrée de je ne sais pas combien. Et c'est pour voir quoi ? Pour être dans le noir ?»
Donc on avait déjà des anciens combattants qui avaient une certaine habitude et qui voulaient trouver, eux, des objets, des choses d'époque qui rappellent bien ce qu'ils ont vécu. Donc ils n'avaient pas ça. On leur demandait de visiter tout seuls. Et du coup, ils avaient l'impression un peu de grands espaces vides, et ça ne correspondait pas forcément à leurs attentes à ce moment-là, même s'ils étaient fiers qu'il y ait un bâtiment qui soit là pour retracer leur histoire et transmettre la mémoire.
En 3 jours, le Vercors est aux mains des 20 000 hommes de la division Flau. La forteresse devient une souricière.
Ce que j'avais à faire, c'était faire sentir aussi rapidement que possible, avec toutes les ambiguïtés qu'il y a, à la fois des choses qui continuent, les chansons, les cabarets, les théâtres qui continuent à leur vie comme avant la guerre.
Jean-Pierre Laurent, muséographe, archive.
Et puis cette espèce d'oppression qui devient de plus en plus contraignante. Alors il y a de l'ordre de l'embarras et de l'ennui, et puis il y a de l'ordre de l'atroce.
Ensuite de ça, c'est un peu le reproche que je fais moi à cette muséographie qui est noire, très triste et tout, alors que on a tous été jeunes. Qu'est-ce que c'était que les gens qui étaient là, les jeunes résistants, ils avaient 18 ans, ils avaient 20 ans, un peu plus, mais c'est l'enthousiasme, ils y sont montés quasiment comme on disait de nos grands-pères à la guerre de 14, ils sont partis la fleur au fusil, eux aussi. Ils savaient peut-être bien qu'ils auraient eu des problèmes. Ils ont été encadrés par les quelques militaires de carrière qui savaient peut-être un peu se battre, mais pas tellement alors. C'était quand même une résistance, la guérilla, c'était quelque chose de nouveau à l'époque.
Finalement, le groupe de travail avait dit, mais au bout de ce cheminement, il faut qu'il y ait quelque chose qui éclate, qui explose.
Bernard Coquet, ancien préfet de la Drôme.
Il faut quelque chose d'émotionnel. Et on avait eu à ce moment-là un débat sur le caractère, entre guillemets, cinématographique de cette exposition, dont on devinait donc le cheminement et puis la dynamique, en quelque sorte. Et dans ce caractère cinématographique, comment allait-on apporter l'image finale ? Et dans cette salle, qui a été conçue pour cette image finale, j'allais dire ce choc final, finalement, le groupe et le muséographe ont imaginé une mise en scène de la lecture de la lettre d'Arlette Blanc, qui avait écrit cette lettre avant de mourir et au moment où elle allait faire sa communion. Et cette lettre est totalement poignante, surtout quand on la plonge dans le climat de l'époque et après avoir fait ce cheminement au travers du maquis du Vercors. Et on arrivait au bout, et il y avait là, dans l'ombre, dans le noir, en quelque sorte, une vidéo qui, à partir de certaines images, était soutenue par le texte de la lettre qui était lu.
Rien ne pouvait mieux représenter l'effet qui avait été que ce qu'avait subi cette petite Blanc. Voilà, donc c'est vrai que pour les gens qui avaient connu, pour les gens de Vassieux, pour les gens du Vercors, c'était, je pense que c'était vraiment quelque chose de concret, voilà.
Il y avait toute une construction logique qui, évidemment, doit avoir perdu de son intensité si on a supprimé la dernière salle, puisque tout le fil conducteur émotif qui permettait, au fond, de saisir ce lieu comme le lieu où avait eu lieu ce massacre, évidemment, ben, ce fil émotif doit être sinon cassé, largement atténué.
Bizarrement, j'ai envie de dire, ça faisait un peu concession, et même concession très poussée dans l'autre sens, à justement ce qu'on avait dit qu'on ferait pas. Hein? C'était très très lourd comme salle, et très brut, très, très réaliste, très, voilà. Ça a d'ailleurs été enlevé après, et ça a posé aussi question, mais je me suis toujours demandé quelle était, alors que justement je trouvais que ce côté mythique d'Arrêt de Blanc aurait pu être utilisé, mais qu'il fallait, il fallait arriver aussi à le, à l'interpréter, voilà, aussi d'une manière moderne. Or, là, il y a un petit, il y a eu un petit, à mon avis, hiatus, mais j'en sais rien, un peu bizarre.
Tout de suite, ça se trouve dans la salle. T'emmènes vers la problématique des droits de l'homme, vers les luttes des peuples opprimés aujourd'hui, donc il y a une petite facette sexuelle, un peu de Cuba, un peu d'Argentine.
Cet espace était assez sensible. Il était paradoxalement très apprécié par les habitants du Vercors, qui avaient l'impression qu'on rendrait vraiment hommage à une famille martyre et qu'on les prenait en considération leur souffrance. Mais par les visiteurs, d'abord, ils ne comprenaient pas forcément que c'était une histoire vraie et ils avaient l'impression qu'on avait inventé une histoire pour émouvoir le visiteur et ajouter encore un petit peu plus de sensiblerie inutile. Voilà, ça n'apportait rien pour eux à la visite, si ce n'est de plomber la visite. Et au lieu d'ouvrir sur du positif, ça finissait la visite sur un sentiment de haine à l'égard des nazis, bien évidemment, mais aussi peut-être du peuple allemand, parce que du coup, on avait un peu du mal à faire la part des choses après avoir entendu cet espace-là et cette histoire-là qui est terrible. Donc, il y a eu une évolution à ce niveau-là. Cet espace a été remplacé en 2007 et la volonté était de créer un espace avec un film qui ouvre un petit peu sur aujourd'hui. Hein, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Comment on résiste?
L'esprit de résistance
est toujours. Bon, on est en plein dans le débat actuel sur la totémisation de Stéphane Hessel. Tu vois, c'est la même problématique.
La détermination anime encore des paroles de Rosine Grébule. Figure de résistance du Vercors, déportée, femme de conviction et de partage. Des mots qu'elle nous a confiés.
Je pense que les gens se sont accoutumés à ce genre de, voilà, de symboles, de muséographie. Ils ont les clés pour décrypter, ils sont grands pour comprendre et apprécier à sa juste valeur le mémorial.
Christiane Bignon, accueil et visite au mémorial.
On est passé, moi, je le vois comme ça, hein, de la colère au début à vraiment maintenant une admiration. Et puis, je suis contente parce que c'est par famille, hein, qui viennent là en juillet-août. C'est pas les classes qui sont obligées de venir. Hein. Ce sont des familles, donc avec des enfants, des jeunes. On voit tout à fait les jeunes écrire sur le livre d'or, qu'ils sont vraiment intéressés, qu'ils sont contents d'avoir compris cette histoire. Enfin, on les sensibilise. Et les gens sont toujours intéressés. Les jeunes générations sont toujours intéressées, puisque le mémorial se veut aussi de parler de la résistance, des combats pour la liberté aujourd'hui, ici ou ailleurs. Et ça, c'est vraiment une dimension très importante. C'est pas les anciens combattants d'une guerre ancienne. Et puis voilà, non, c'est vraiment autre chose. C'est une dimension bien plus grande, faire réfléchir sur aujourd'hui.
Le premier tour de force, ça a été de faire rentrer le bâtiment, le coût du bâtiment dans l'enveloppe qui était prévue par les deux conseillers généraux de Drôme et de l'Isère. Ça a été un moment difficile et compliqué et qui a pris du temps, un peu plus de temps que prévu. Ce qui fait que le chantier qui devait démarrer au début de l'été 93 n'a débarré qu'à l'automne. Et donc, il nous restait plus que 9 mois pour construire ce bâtiment en altitude, au col de la Chaux.
C'est un chantier qui débute un peu tardivement. Hein, on trouve dans les notes de l'architecte, mais aussi les souvenirs du chantier, notamment de Royan Travaux, d'attendre les différentes décisions administratives. Et on va avoir, à un moment donné, le chantier qui va débuter en plus en plein hiver.
Gérard Estève, actuel directeur du mémorial.
En un an, il va falloir réaliser le bâtiment pour qu'il soit prêt pour le 21 juillet 1994.
On a, dès les premières semaines de chantier, on a eu une première chute de neige. On en a eu d'autres. Chaque fois, l'entreprise a dû déneiger quelquefois 50 cm de neige sur toutes les dalles. Et ça a été vraiment un challenge que l'entreprise Peradio a tenu à réussir et qu'elle a vraiment bien réussi. Le béton est parfait. Que ce soit sur les murs, sur les sols, sur les poutres, ça a été pour l'architecte un vrai plaisir de travailler avec cette entreprise en particulier.
Ça a été un chantier important à l'époque. Donc c'était l'entreprise Royan Travaux. C'était un chantier qui a marqué l'entreprise.
Claude Perrazio, conducteur des travaux pour Royan Travaux.
C'est vrai que ce bâtiment était technique, quoi, très technique. Il demandait surtout les hauteurs de coffrage, les courbes, la contre-courbe. L'altitude, on peut dire que c'était un chantier de montagne, donc tous ces problèmes. Le site, le lieu, qui était quand même exigu. Puis il sortait de l'ordinaire aussi par sa structure, quoi, parce que il fallait faire des bétons de qualité, des bétons difficiles à mettre en œuvre à cause déjà de l'altitude, des hauteurs de murs, des courbes, des reprises de béton qu'il fallait éviter. Tous ces paramètres nous ont nécessité à faire les 2-8. Quoi. C'était vraiment un chantier qui sortait de l'ordinaire.
Il y avait cette date du 21 juillet où il fallait à tout prix que ça soit fini pour le 50e anniversaire.
On a de très belles photos de chantier dans la neige, on voit un petit peu de cette aventure des différents corps de métier, et c'est ce regard sur sa construction et le chantier est aussi intéressant de se remémorer cet effort qu'il a fallu et toutes les prouesses techniques qu'il a fallu mettre en œuvre pour le réaliser.
Cette année 1994 est aussi l'occasion de se souvenir d'événements plus douloureux comme ceux qui ont frappé le Vercors il y a 50 ans.
Par ailleurs, ce qui est intéressant ensuite, il y a la construction, il y a bien sûr l'inauguration. Donc cette inauguration se fait en l'absence de François Mitterrand, puisque François Mitterrand était à ce moment-là malade. C'est Édouard Balladur qui vient inaugurer le mémorial de la Résistance.
Oui, ça a été très, très court entre la fin des chantiers, le recrutement des personnels, la formation et puis la préparation surtout de l'inauguration qui était une très très grosse cérémonie. Donc ça a été quelques mois très intenses.
Avec un écho de la presse nationale à ce moment-là sur ce lieu et sur le site national historique de la Résistance en Vercors qui est bien décrit dans sa globalité. Ce qui est important, c'est de voir comment cette bâtisse, cet édifice a su s'intégrer à son environnement et par ailleurs a su ouvrir sur le paysage, notamment quand on arrive sur le Belvédère, qui est une confrontation entre un territoire et son histoire. Et cette notion-là d'anti-monument, ce n'est pas un monument, permet à la fois de s'intégrer et de trouver tout son sens dans ce paysage grandiose qu'est le Vercors. Dans ce que appelle Julien Gracq, le paysage histoire.
Donc je pense que c'est une intuition de départ qui reste toujours très pertinente, très, très forte, très vivante. Et face à un public qui est toujours sensible à ces questions historiques, je pense que ça reste largement débattu et ça suscite toujours beaucoup d'intérêt.
Philippe Auger, ancien chargé de mission puis directeur du parc naturel régional du Vercors.
Il me paraissait important de remettre en perspective ces événements historiques face à un milieu naturel et un massif de montagnes habitées qui a été le terreau de ces épisodes de résistance en 1944. Et cette intuition-là me semble toujours forte et à préserver. même si je vous le dis, sans doute, la muséographie doit-elle évoluer, la manière d'en parler, mais ça c'est assuré dans la mesure où de nouvelles générations vont, à leur niveau, revisiter ces événements. Donc elles auront d'autres manières d'en parler.
Le Vercors, il se construit avec ça. On ne peut pas mettre de côté l'histoire. Et les visiteurs, s'ils viennent pour côté nature et côté beauté du paysage, immanquablement, ils vont se pencher sur ce côté de l'histoire du Vercors. Ça les intéresse aussi. Un lieu qui est beau, mais qui a été meurtri, on voudrait comprendre. Parce que souvent, ça percute, ça aussi. La beauté du paysage, mais comment c'est possible? Comme si les mauvais paysages pouvaient subir plus facilement les...
Moi, dès que je suis arrivé en 2001, on sentait encore le tourisme qui venait pour les événements. Venait passer un jour ou deux, mais s'intéressait aux événements.
Monsieur Replin, habitant et ancien maire de Vassieux-en-Vercors.
Aujourd'hui, de plus en plus, le touriste vient d'abord pour la nature, le tourisme vert que j'appelle moi, mais aussi en profite pour prendre connaissance de la réalité des événements qu'il y a eu à Vassieux.
Souvent on nous dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse, le musée ou le mémorial? Le mémorial c'est plus haut. Je dis non, les deux sont très complémentaires. Il y en a un qui va garder la mémoire telle qu'elle avec les uniformes, les choses, etc. Et l'autre qui va expliquer d'un côté pédagogique. Donc on va commencer par le pédagogique. Hein, avec une accessibilité, j'allais dire, au niveau pour les anglophones, mais pas que, même pour les Allemands et autres. Et après, on va aller sur le mémorial et sur le musée. Donc voilà. Il n'y a que le chemin qui est un peu dur. La descente, ça pourrait être quoi. Mais nous, ils sont jeunes, ça va. J'ai des jeunes qui sont venus 3-4 fois parce que c'est vrai qu'ils grandissent aussi avec la structure. Ils ont toujours à cœur d'y aller. Il n'y a pas de, lassitude, en tout cas, ça qui est. Il n'y a pas, j'y ai déjà été 3 fois, ça m'ennuie. Et je crois qu'il y a aussi cette vie collective qui va se faire autour de la randonnée. C'est-à-dire qu'en fait, on se découvre, on fait une randonnée, et on est dans le même paysage que les résistants, on a quasiment le même âge. Et puis on revit ensemble quelque chose, on est attristé, bien sûr, on est choqué, bien sûr. Et puis après, on se retrouve encore ensemble, et on sait que là, on n'est pas là pour rien, on va faire quelque chose aussi.
Je me souviens avoir été très marqué par cet édifice-là, sans pouvoir dire pour quelle raison, sans doute par le sujet abordé, par un intérêt pour l'histoire aussi, qui, je pense, est toujours présent et qui fait le lien entre mon enfance et actuellement. Le fait d'étudier l'architecture à l'université m'a permis aussi de me réintéresser à un sujet qui m'avait marqué dans l'enfance, oui. C'est un retour sur une expérience, c'est vrai.
C'est un gros avantage du village de Vassieux, cette possibilité d'associer à la fois un travail historique, un travail de mémoire et en même temps profiter de tous les atouts de la nature, des prestations qui peuvent vous être proposées à Vassieux. Donc il n'y a pas antinomie entre les deux et ça serait bien que...
Thomas Ottenheimer, habitant et gérant de la ferme du Pré.
Voilà, le tourisme de mémoire ne soit pas un tourisme que de mémoire. Et à l'inverse, le tourisme nature, découverte, ne soit pas qu'un tourisme nature et découverte. On a cette chance-là, entre guillemets, si on peut parler de chance, parce que c'est quand même des moments de l'histoire qui ont été difficiles, mais on a cette chance-là d'avoir à la fois une dimension historique et une dimension nature, et c'est un atout du village.
Oui, c'est accepté par les habitants du village. Si ce n'est pas accepté, c'est oublié. Il ne faut plus qu'à... s'ils ne peuvent pas revenir visiter ou venir visiter, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus visiter, qui se sont fait une idée de ce que c'était, et puis n'en dérogent pas. Dommage, ils ne sont pas venus et mériteraient d'avoir une explication, un guidage pour leur... Moi, j'aimerais bien, je trouve tellement beau ce lieu, que tellement respectueux de l'histoire passée, respectueux aussi des habitants du Vercors, que j'aimerais qu'il soit apprécié de tous. Mais il l'est quand même, il l'est.
C'est vrai que c'est parfois peut-être associé travail de mémoire et économie, toujours un petit peu perturbant, mais effectivement, c'est un atout pour le village de Vassieux. Il y a d'autres atouts à Vassieux, mais ça fait partie des avantages que nous avons et qui drainent une population touristique importante.
Ça vous a surpris comme manière de présenter les choses ?
Mais moi, j'aime autant une animation comme on voit ici ou ailleurs que simplement un musée sans animation, vous voyez ? Ce que je préfère, en fait. Oui. Ça, c'est comment dire ?
Ben, j'ai très mal dormi, vu que moi, j'ai vécu la guerre d'Algérie. Et en revoyant tout ce qui s'est passé, tout ce grand désastre, quoi. Eh bien, j'avais pas dormi la nuit. Voilà, et c'est très triste. Voilà, j'ai vécu le bombardement, là, tout, quoi. Voilà. Je pense que c'est ça. Et je pense aux autres, quoi, qui sont passés par là aussi.
Très émouvant. Et je pense qu'on devrait faire visiter ce mémorial à beaucoup d'adolescents qu'ils se souviennent, pour ne pas s'oublier. Et c'est fait d'une façon vivante, vu qu'il y a des témoignages. J'ai bien aimé les histoires. Il est intéressant de comprendre la vie de ces gens. Un objet ne vous dit pas grand-chose, mais entendre des témoignages, comprendre aussi la vie, avoir des films, par un moyen audiovisuel, ce que les différents protagonistes, si j'ose dire, les résistants, ressentaient, c'est vraiment, on apprend mieux. C'est très positif, je trouve ça. Il y a un effet spécial, oui, peut-être.
C'est difficile.
On était tout emprunt de cette période noire. Et on arrive ici et on se dit, mon Dieu, que c'est beau. Quel contraste avec les atrocités. On dit quelle horreur quand on se replonge dans les années 44.
Ah oui, là, c'est magnifique.
C'est vrai que ça fait un contraste. Quand on ne s'attend pas à déboucher, à arriver sur cette terrasse-là. Avec ce panorama, c'est super.
Magnifique. C'est un beau pays, là. Là-bas, c'est le grand Véman.
Pourquoi je trouve ça d'avoir lâchement assassiné, mais blessé.
Le sommet était dans les nuages, maintenant, c'était
dégagé. C'est la guerre, quoi. C'est con, la guerre. Comme dit un certain auteur. Borisian. Non ?
C'était les 20 ans du Mémorial de la Résistance en Vercors, un document audio réalisé dans le cadre du programme Au Pays de la Liberté, 70 ans plus tard, avec les voix de Philippe Auger, Hélène Bariel, François Brunswick, Bernard Coquet, Gérard Estève, Olivier Félix Faure, Pascal Hoffleur, Philippe Huette, Daniel Huillier, Bernard Julien, Jean-Pierre Laurent, Sybil Levotte, Hervé Nico, Albert Orsel, Thomas Ottenheimer, Claude Perrazio, Michel Replin, Jean-Michel Rey, Jean-François Trèves, Christiane Vignon, Albert Villard et visiteurs. D'après une idée originale du Parc naturel régional du Vercors, réalisation Radio Royan, septembre 2014.